Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Géopolitique depuis le Salon de l'agriculture à Paris, dont l'édition 2015 touche à sa fin. Regard sur les grandes questions touchant à l'agriculture et à l'alimentation, les enjeux de ce secteur autour de la Méditerranée et sur le continent africain, reflet des problématiques mondiales. Entre des prix alimentaires demeurés élevés depuis la flambée de 2008 qui pénalise les plus pauvres, alors que pour ces derniers, les besoins alimentaires vont aller croissant. Regard sur les défis de la région et la complexité des situations, notamment celle des pays en proie à la guerre ou au conflit, avec cette question: est-ce la guerre qui impacte l'agriculture ou une agriculture défaillante qui génère la guerre? Question à laquelle s'ajoute la problématique mondiale du changement climatique comme menace à la sécurité alimentaire. Nos invités pour débattre de toutes ces questions: Mohamed Sadiki, secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime du Royaume du Maroc. Bonjour.
Bonjour.
Cosimo Lacirignola, secrétaire général du CIAM, le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Christophe Debarre, directeur de la Fondation FARM, Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. Bonjour.
Bonjour.
Et Sébastien Abyss, administrateur au CIAM, mais également chercheur associé à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Donc le fil rouge de cette édition 2015 du Salon de l'agriculture, l'adaptation des systèmes agricoles au changement climatique. Le sujet du climat est un vaste débat entre hémisphère nord et hémisphère sud. Les pays du nord considèrent que la sécurité alimentaire relève davantage du développement et de la lutte contre la pauvreté, et les pays du Sud estiment, eux, que cette question est indissociable de la problématique du dérèglement climatique. Quel est votre avis sur la question, Mohamed Sadiki?
Les changements climatiques constituent un phénomène planétaire, effectivement. L'agriculture constitue un secteur qui subit alors les effets climatiques, mais également peut être constitué un secteur de solution pour les contribuer à s'adapter et puis à atténuer les effets du changement climatique. La question du développement de façon globale, que ce soit au nord, au niveau des pays développés ou au sud, se pose dans les mêmes termes, à mon avis. Bien sûr, il est exprimé différemment. Les enjeux dans les différents pays ne sont pas les mêmes par rapport à traiter ces questions. C'est là où il y a la différence. Mais en termes de solutions, ce sont les approches, si vous voulez, qui se posent à nous aujourd'hui sont harmonisées. Et il s'agit de les adapter selon les territoires et selon les pays et le niveau, si vous voulez, développement de nos agriculteurs.
Jean-Christophe Debarre.
On peut dire déjà sur le changement climatique, c'est qu'il est déjà à l'œuvre. On a parfois un petit peu tendance à en parler au futur. En fait, on sait par les travaux des chercheurs que sur les grandes céréales, le blé par exemple, le maïs, depuis à peu près une trentaine d'années, il y a une perte de rendement déjà. Alors, c'est un peu masqué parce que les rendements en réalité augmentent pour des raisons dues au fait qu'on a des semences de plus en plus performantes, etc. Mais en réalité, il y a quand même cet effet. Donc, premier point. Le deuxième point, c'est que c'est vrai que toutes les régions sont concernées. Mais c'est vrai aussi, même si la science reste un peu balbutiante en ce moment, en l'état actuel des choses, que les différentes régions, dans le futur, vont être impactées de manière probablement assez différente. Il y a des régions qui vont gagner, des régions qui probablement produiront plus grâce au changement climatique.
Quelques exemples, Jean-Christophe Debarre.
On peut penser que dans des régions qui sont, par définition, j'irais vu le problème, plutôt situées dans les latitudes septentrionales, nord de l'Europe, pourquoi pas certaines régions, Russie, voire Chine, qui sait. En revanche, pour les pays d'Afrique subsaharienne et très globalement la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, d'une manière générale, il y a plutôt un consensus sur le fait que l'impact serait négatif sur la production agricole de ces régions.
Donc si je vous entends bien, Jean-Christophe Debarre, finalement, et je vais demander peut-être à Cosimo Lacirignola s'il est d'accord, ce sont toujours les mêmes qui sont concernés et affectés.
Donc le changement climatique, c'est un fait global qui naturellement amène à une discussion globale, mais il faut la conceptualiser et la cadrer dans un cadre euro-méditerranéenne d'agriculture qui change. Quand on parle au changement climatique, on ne doit pas penser à la sécheresse, on doit penser aux extrêmes, où il pleut beaucoup, où il ne pleut pas. Donc, à des effets concentrés dans le temps, dans l'espace. Donc, il faut repenser, même la météorologie doit changer, parce qu'il faut repenser, ils sont en train de repenser tous les algorithmes, les modèles, parce qu'il y a un décalage entre ce qui se passe actuellement dans la nature ou dans le monde, affecté aussi, qui voit aussi l'homme protagoniste des changements. Et donc, l'agriculture est au milieu. Mais à côté des changements climatiques, donc avec les effets des mitigations et des adaptations qu'il faut faire aux agricultures du monde, il y a aussi un autre fait, qu'à côté de ça, il y a une crise financière, économique, alimentaire, environnementale et sociétaire. Donc tout ça, ça fait partie du nouveau monde. Donc il faut repenser comme approcher les changements climatiques dans une multitude de situations qui n'affectent pas, qui voient l'agriculteur et l'agriculture soit protagonistes en positif, soit protagonistes en négatif. Donc c'est ça la complexité du système. Parce que l'humanité a été habituée au changement climatique. Quand je pense à nos régions, la ridoculture s'est faite. J'ai vécu dans une région où il n'y a pas de fleuves, donc nos agriculteurs savaient très bien traiter.
Mais les enjeux tout de même, Cosimo de la Cirignola, n'étaient pas les mêmes en termes de population affectée,
exact,
on est d'accord.
Exact. C'est la démographie qui change, ce sont les habitudes alimentaires qui changent, ce sont les modèles d'alimentation qui changent. Donc il y a un bouleversement global qu'il faut traiter par différentes approches aux agricultures possibles et adaptables au changement.
Sébastien Abyss.
Pour s'inscrire dans le prolongement de ce qui a été dit, vraiment c'est important d'insister sur la climato-dépendance du secteur agricole. C'est la plus vieille histoire du monde. À la fois l'agriculture, c'est la première activité développée par l'homme, et la dépendance au climat, c'est pas nouveau. Donc la conséquence aujourd'hui de dérèglement climatique accentué, avec des contrastes de plus en plus forts entre les saisons, entre les années, entre les régions, complexifie en fait une situation qui est historiquement faite ainsi. Le développement agricole repose sur les conditions climatiques. À cela s'ajoute ce qui a été dit un peu précédemment, c'est-à-dire le besoin de regarder aujourd'hui que le problème global s'inscrit dans des réalités locales très très différentes. Et c'est peut-être ça aussi la nouveauté ces dernières années, c'est qu'en fait la toile de fond géopolitique du monde a évolué. Les dynamiques ne sont pas les mêmes entre les régions et on ne peut pas parler de l'agenda des solutions face au changement climatique qui ne puisse pas prendre en compte les réalités locales que vivent les communautés d'acteurs. Et en niveau agricole, évidemment, la réalité climatique d'un exploitant au Maghreb n'est pas la même qu'un exploitant du nord de l'Europe. Et donc, on a un agenda global dont les solutions ne peuvent pas être globales. Ça, c'est très important d'être rappelé.
Alors, juste une précision avant d'avancer et parler du Maroc avec vous, Monsieur Sadiki. Quand on parlait en termes de population, je lisais pour préparer cette émission que aujourd'hui, et tout le monde le sait, il y a à peu près 805 millions de personnes qui sont encore en proie à la faim dans le monde. Et selon le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, d'ici à 2080, ce sont 600 millions de personnes supplémentaires qui pourraient souffrir d'insécurité alimentaire sous l'effet direct ou indirect du changement climatique. Un commentaire, Cosimo La Cirignola ?
Oui, en fait, c'est un passage important. Des prochaines 20 années, la population va passer de 6 et 7 à 9 milliards. Et une partie de cette population va se trouver dans des conditions de sécheresse accrue et donc de pénurie alimentaire. Donc c'est un problème dans les problèmes. Donc il faut savoir, avec l'intelligence et l'innovation, adapter aux différents modèles d'agriculture toute l'intelligence possible. Donc il y a une véritable révolution qui appelle à la seule ressource inépuisable qui est notre intellect, notre intelligence. Et donc, mais l'enjeu est global. Mais comme mon collègue Seba disait, l'approche doit être locale. Penser globalement, agir localement, c'est fondamental, c'est important.
Sébastien Miss.
Juste pour illustrer à quel point le climat peut affecter le secteur agricole et avoir des conséquences géopolitiques, vous prenez le cas syrien. La Syrie a été victime d'une très grave sécheresse au milieu des années 2000, qui a provoqué quand même un certain exode rural de paysans syriens qui ne pouvaient plus vivre de leur activité et qui sont venus grossir les faubourgs des grandes villes syriennes. Disant cela, ça ne veut pas dire que la sécheresse, les problèmes climatiques et les difficultés agricoles expliquent à elles seules la révolution syrienne. En même temps, les ignorer serait passer à côté d'un élément important des révoltes sociopolitiques dans ce pays qui se sont traduites par une révolte et une guerre civile ouverte depuis maintenant 4 ans qui a plongé le pays dans une insécurité alimentaire colossale. Aujourd'hui, vous avez un Syrien sur 4 qui est resté dans le pays, qui souffre de la faim. Et donc, vous pouvez avoir, en l'espace d'une dizaine d'années, des problématiques climatiques qui engendrent des turbulences géopolitiques et qui, derrière, aggravent les conditions de la sécurité alimentaire. Et le cas syrien l'illustre très bien.
Alors, vous passez là la main à Jean-Christophe Debar sur cette question syrienne. Ce qui est sûr, c'est que, et on l'a peut-être un petit peu oublié, l'insécurité alimentaire a déclenché, en tout cas, c'est ce qu'on estime aujourd'hui, donc des émeutes dans plus de 30 pays, là je parle des années 2008, donc on est un tout petit peu de façon antérieure à la question à proprement parler syrienne, Jean-Christophe Debar. Donc le Maghreb n'a pas non plus été épargné, hein, Mohamed Sadiki, vous nous en parlerez. D'aucuns estiment que d'une certaine manière on se trouve tout de même face à un partage des responsabilités eu égard notamment au délaissement de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Jean-Christophe Debar?
Alors, vous parlez effectivement de ce qu'on a appelé les émeutes de la faim, 2007-2008, mais d'une certaine façon, le problème a commencé bien avant, bien antérieur. Ce qui s'est passé en 2007-2008, c'est qu'à un moment donné, précisément, ces tensions qui étaient en train de s'accumuler ont éclaté, ont commencé à éclater. Pourquoi ces émeutes? Les prix alimentaires ont flambé. Mais quand on prend un tout petit peu de recul, quand on regarde ça sur 20-30 ans, qu'est-ce qu'on constate? En fait, les prix alimentaires, les prix des denrées exprimés en valeur réelle, comme on dit, donc après déduction de l'inflation, disons pendant une bonne dizaine d'années, entre 1975 et 85, ils avaient diminué. Gros efforts de productivité, on produisait, aucun problème, presque pas. Ça n'empêchait pas qu'il y avait quand même quelques centaines de millions, notamment d'agriculteurs, qui souffraient de la faim. Mais enfin, les prix agricoles et alimentaires diminuaient. Entre 1985 et pratiquement, je dirais, le début des années 2000, ces prix agricoles ont à peu près stagné, ils ne diminuaient plus. Et puis, à partir de à peu près il y a une dizaine d'années, finalement, ils ont commencé à monter. Et ce qu'on a vu en 2007-2008, voilà, c'est une première flambée. Mais quand on regarde, vous l'avez dit en introduction de l'émission, quand on regarde comment les prix alimentaires ont évolué depuis 2007-2008, en réalité, ils ont certes fluctué, c'est le propre des marchés agricoles, mais ils sont restés historiquement élevés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, le problème d'une alimentation assez chère, pour en tout cas les ménages les plus pauvres, demeure. Et que donc, effectivement, se pose la question, qui est vraiment la question qui remonte encore une fois bien avant 2007-2008, produire plus, pouvoir échanger plus. Produire plus, échanger plus. Produire plus, échanger plus, ça suppose effectivement que soient mises en œuvre de bonnes politiques publiques, déjà, qui soient suffisamment incitatives pour encourager la production et la productivité, parce qu'on sait bien que la productivité, c'est à la fois des prix alimentaires qui peuvent baisser pour les ménages les plus pauvres, mais c'est aussi la possibilité de pouvoir en même temps augmenter le revenu des producteurs. Donc la question de la productivité est véritablement cruciale.
Alors, cette question de la productivité, Mohamed Sadiki, je me tourne vers vous. Comment est-ce que le Maroc a résolu cette question? On a la fanfare qui passe à côté, juste que pour nos auditeurs soient un petit peu au courant. Donc voilà, c'est un petit peu bruyant. Et nous allons essayer de couvrir avec vos voix les saxophones et la batterie qui passe à côté. Mohamed Sadiki.
Depuis 2008, le Maroc a lancé un programme de développement de son agriculture, une stratégie qui s'appelle le Plan Maroc Vert, qui s'inscrit dans une vision globale pour raisonner le système alimentaire marocain. Elle repose sur une vision qui permet l'intégration de la petite et de la grande et la moyenne agriculture. Et l'objectif, c'est de pousser les producteurs vers une sorte d'entrepreneuriat et où nous avons placé l'investissement au cœur de cette stratégie pour mobiliser justement la valorisation donc des terroirs à travers des investisseurs et à travers un système d'attraction vers ce secteur en termes donc d'investissement. Alors c'est une stratégie qui repose sur deux piliers en termes d'intervention. Nous avons ce qu'on appelle le pilier de l'agriculture solidaire. L'idée, c'est que l'État puisse apporter des pas des aides classiques, mais des incitations à l'investissement
autour de 70% en termes donc de autour des projets. Et le pilier 1, c'est exactement l'inverse. L'État apporte 30% en termes de, d'aide et en termes de, d'incitation donc, à l'investissement. Et le privé est supposé apporter les 70%. Alors ça, c'est au niveau, si vous voulez, des approches et au niveau des instruments. Maintenant, au niveau global, nous avons une approche filière de production, la chaîne, selon la chaîne de valeur, pour aller du producteur jusqu'au consommateur, où la question de la rentabilité et du revenu du paysan et de l'agriculteur est raisonnée. Alors, et c'est autour de ces approches de filière qu'est travaillée donc la productivité, la production et toute la question donc de qualité. Il y a une autre dimension donc dans cette approche, c'est la dimension territoriale. L'idée, c'est de produire en fonction des potentialités régionales et dans un esprit donc d'assolement et de complémentarité au niveau global. Alors tout ça, si vous voulez, est fait dans une ouverture de notre système, une ouverture qui est maîtrisée et qui permet l'accès au système économique de nos petits agriculteurs à travers un système d'agrégation.
Le Maroc, Mohamed Sadiki, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de modèle marocain en Afrique? Vous parlez du plan vert, je ne sais pas si le terme est bien employé par moi. Oui. On connaît aussi le Brésil et son plan vert. Est-ce que quelque chose de commun entre ces deux pays, en dehors du fait que l'un comme l'autre ont réalisé toute l'importance d'avoir une agriculture non seulement autonome, mais de parvenir à une sorte d'indépendance en tout cas?
Alors en fait, il y a ce qui est en commun, ce sont les approches et les instruments. C'est pas totalement le modèle, mais parce que chaque pays, chaque condition a son modèle. Par contre, les approches et les outils, les instruments utilisés, effectivement, il y a des approches donc communes. Alors avec les pays donc africains, nous avons une dynamique qui s'est enclenchée depuis un certain temps, depuis quelques années, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, la coopération tripartite Nord et puis avec les Sud-Sud. Et l'agriculture joue un rôle extrêmement important dans ces échanges de façon globale. Et le plan Maroc vert, justement, étant donné ses résultats, étant donné son approche qui a déjà donné des résultats sur le terrain, est souvent au cœur de ces échanges avec les pays africains, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons des accords très importants avec ces pays en termes de développement agricole. Nous avons une approche tripartite avec la FAO pour mobiliser les expertises de la Méditerranée de façon globale vers les pays donc de l'Afrique subsaharienne, et également recevoir à travers ce mécanisme où nous avons mis en place un fonds recevoir donc nos amis de ces pays pour des visites de travail et puis pour surtout des formations continues.
Jean-Christophe Debar, assez rapidement pour terminer cette première partie de l'émission.
Oui, là où le Maroc dit des choses très intéressantes au reste de l'Afrique, c'est de s'adresser à la fois aux grandes exploitations et aux petites exploitations. Il n'y aura pas de solution du problème de sécurité alimentaire, d'équilibre de territoire et tout ce qui tourne autour de l'agriculture si on ne s'adresse pas à ces deux types de populations. Premièrement, et deuxièmement, quand on s'adresse aux petites et moyennes exploitations, de tenir un langage de performance économique. Certes, c'est une question sociale, à commencer par le nombre de personnes impliquées. Mais quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est véritablement d'intégrer ces acteurs économiques à leur niveau, avec leur capacité, et en les aidant bien sûr à faire mieux, dans le tissu économique. Et il y a un formidable potentiel d'accroissement, d'amélioration. Donc l'enjeu, il est là.
Alors juste pour terminer cette première partie d'émission, pour nos auditeurs, le Maroc, cinquième puissance économique d'Afrique, un secteur agricole qui représente environ, je parle sous votre contrôle monsieur Sadiki, un secteur agricole qui représente environ 15% du produit intérieur brut et emploie environ 43% de la population active et représente plus de 78% de l'emploi en milieu rural. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Mohamed Sadiki, Cosimo Lecirignola, Sébastien Abyss et Jean-Christophe Debar dans quelques instants. A tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur les questions agricoles et alimentaires autour de la Méditerranée sur le continent africain depuis le salon de l'agriculture qui touche à sa fin. Nous retrouvons nos invités, Mohamed Sadiki, secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime du Royaume du Maroc, Cosimo Lacirignola, secrétaire général du SIAM, le Centre international des hautes études agronomiques et méditerranéennes, Jean-Christophe Debar, directeur de la Fondation FARM, la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, et Sébastien Abyss, administrateur au SIAM et chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Nous avons terminé la première partie de l'émission avec vous, Mohamed Sadiki et Jean-Christophe Debar, autour du Maroc. Sébastien Abyss, vous souhaitiez rebondir notamment sur la question de savoir ce que finalement reflète le Maroc des réalités agricoles dans le monde aujourd'hui, Sébastien Abyss.
Oui, simplement pour rappeler que ce Maroc est un laboratoire des changements du monde, qui est un laboratoire de pays en mouvement, qui s'inscrivent dans un développement multiple et multisectoriel, illustre deux tendances lourdes en fait qu'on observe très bien et qui sont parfois oubliées quand on évoque les questions agricoles. D'une part, c'est la mondialisation de l'agriculture. Toujours plus d'échanges, toujours plus loin et toujours plus sûr, parce qu'il faut répondre à des exigences et des industriels et des consommateurs par rapport à la qualité des produits. Donc la mondialisation économique est vécue par les acteurs agricoles. Parallèlement, il y a une multipolarisation des échanges agricoles, au sens où nous avons de plus en plus de partenaires pour les échanges agricoles. Le Maroc l'illustre très bien. Ça a été évoqué dans le cas de la stratégie africaine déployée actuellement par le Royaume, mais c'est aussi un pays qui aujourd'hui vend l'essentiel de ses agrumes à la Russie et non pas à l'Europe, et en même temps qui garde des relations très fortes sur le terrain agro-commercial avec l'Europe, mais qui a aussi un accord de libre-échange avec les États-Unis, qui achète son blé dur au Canada et qui est donc une illustration de cette globalisation des échanges agricoles avec un maximum de partenaires et avec un maximum de cartes en main pour essayer de jouer avec la compétitivité que chaque pays peut avoir sur la table. Donc c'est extrêmement intéressant parce que là où on avait cru que l'agriculture ne s'inscrirait pas dans les mouvements géopolitiques mondiaux, au contraire, elle est depuis 20 ans aspirée par les mêmes dynamiques et qui montre bien que la carte planétaire agricole est en train d'évoluer au même rythme que la carte géoéconomique.
Alors moi je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Sébastien Abyss, mondialisation de l'agriculture, et je me tourne vers vous Jean-Christophe Debar, ça ne veut pas dire non plus harmonisation des échanges, hein. On se retrouve finalement devant un environnement où les rivalités sont extrêmement exacerbées.
Oui, bien sûr, les rivalités sont exacerbées, mais bon, on peut au moins en premier temps regarder ça en termes plutôt d'abord de complémentarité. On a besoin des échanges. Quand on fait quelques projections sur le thème « Est-ce que l'Afrique peut se nourrir ?» Bien sûr que c'est à souhaiter que la production agricole locale augmente. Et il y a déjà là un énorme défi. On parlait de surface cultivée, on parlait de rendement. Mais je dirais que, même en prenant de très bonnes hypothèses, qu'est-ce qu'on constate ? Que très probablement, l'énorme besoin d'importation, que ce soit en Afrique subsaharienne d'ailleurs, comme en Afrique du Nord, Moyen-Orient, qui existe déjà aujourd'hui, qui n'a cessé d'augmenter depuis 30 ans, devrait très probablement continuer dans les prochaines années. Encore une fois, même si l'Afrique, comme c'est tout à fait souhaitable, augmente beaucoup plus sa production agricole. Donc ça c'est un premier point, on a besoin des échanges. Il s'agit de les réguler au sens, voilà, d'instaurer des règles du jeu qui font que chacun arrive de manière à peu près contrôlée sur un plan politique et social, éviter des ruptures qui soient trop brutales et trop pénalisantes sur un plan politique, économique et social. Donc, maintenant, les règles du jeu, on sait bien qu'aussi on essaye de les écrire soit à l'Organisation mondiale du commerce. Et on sait bien, là, il n'y a que tout un débat entre les pays riches, les pays émergents et les pays plus pauvres. C'est difficile. Les négociations à l'OMC sur ce thème se sont enlisées depuis maintenant plus de 10 ans. Elles commencent à reprendre. Et par ailleurs, on sait, comme Sébastien l'a rappelé tout à l'heure, qu'on discute aussi dans le cadre d'accords de libre-échange, d'accords régionaux. Voilà, les États-Unis et l'Europe discutent d'un accord régional. L'Europe a signé avec le Canada. Et puis, bien sûr, il y a des accords ou des négociations pour aller encore plus loin entre les deux rives de la Méditerranée, entre l'Europe et l'Afrique du Nord.
Alors, avant de reparler donc de coopération entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, pour poursuivre sur cette notion de mondialisation et de besoin des échanges, il y a un phénomène qui est apparu après les émeutes dites de la faim 2008, 2009, 2007. Mohamed Sadiki, je me tourne vers vous, c'est la question de l'accaparement des terres, un phénomène qui prend une ampleur assez importante. Et... Le Maroc figure comme acteur, hein, faisant partie des pays vendeurs de terres. Comment est-ce que le Maroc gère cette question, Mohamed Sadiq?
Le foncier constitue un instrument extrêmement important pour la mobilisation des investissements. Et donc, c'est dans cette optique que la gouvernance, si vous voulez, du foncier et des terres agricoles est pratiquée aujourd'hui dans le plan Maroc Vert. Les terres donc publiques constituent, si vous voulez, l'assiette, je dirais, foncière à travers laquelle on développe des projets pour attirer des investisseurs qui sont pas forcément des petits investisseurs, qui peuvent être des grands investisseurs et qui peuvent être agrégateurs de ce qui est autour. Et ça, c'est un élément extrêmement important, mais selon, bien sûr, des cahiers de charges bien clairs et qui s'inscrivent dans la stratégie globale de la sécurité alimentaire et cette stratégie bipolaire dont parlait Sébastien tout à l'heure.
Cahier de charge bien clair, ça n'est pas quelque chose qui est partagé partout, Cosimo La Cirignola. Il y a des choses importantes, voire graves, qui se passent en termes d'accaparement des terres au niveau global.
Oui, on calcule qu'en Afrique, entre 60 et 70 millions d'hectares sont pris, loués ou achetés, parce qu'il y a besoin. Il y a des pays énergivores qui absorbent beaucoup de denrées alimentaires. On pense à la Chine, etc., qui est un acteur. On parlait des règles tout à l'heure. Avant, les règles étaient définies par les États-Unis et l'Europe. Maintenant, on est passé à la multipolarisation. Il y a plusieurs acteurs. Et donc, ces acteurs jouent un rôle important, fondamental. Donc là, on divise le monde entre pays énergivores qui absorbent et pays qui donnent et pays qui sont entre les milliers. La Méditerranée et l'Europe est entre ces milliers. Donc c'est un continent qui ne joue plus un rôle central. Il les joue encore dans les importations des denrées alimentaires, dans certaines exportations. On est un continent exportateur de technologies, d'intelligence, etc. Mais il y a d'autres pays qui sont autour de nous, qui échangent. Et le Maroc a donné un signal fort, c'est-à-dire l'Europe est un partenaire du Maroc, mais il y a d'autres partenaires qui jouent un rôle. Sébastien Bis a fait un exemple fantastique. Pendant que nous, on a un contentieux avec la Russie, etc., ils exportent les agrumes parce que, de toute façon, il y a un commerce qui joue un rôle important dans les économies locales marocaines et donc c'est comme ça que le monde maintenant doit être perçu. Naturellement, il faut des règles certaines et régler ces marchés multipolaires et multiples, etc., c'est plus compliqué. Donc, on doit jouer la complexité. Et dans tout ça, il y a les accords et on entre dans une logique accord au Méditerranée, donc une macro-région qui est importante parce que l'Europe plus la Méditerranée, c'est important parce que c'est un milliard d'individus, hommes et femmes. Donc, elle peut jouer un rôle majeur si on la considère comme zone euro-méditerranéenne et pas comme Europe, Afrique, Moyen-Orient, aux pays d'Europe orientale, etc. Donc il faut peut-être redéfinir en fait dans cette nouvelle dimension les rôles qui peut jouer la zone euro-méditerranéenne.
Alors justement, 2015 marque le 20e anniversaire de la déclaration de Barcelone. Qu'est-ce que l'on peut dire de la coopération dans la région méditerranéenne aujourd'hui, dans les domaines de l'agriculture et de la sécurité alimentaire? Quelle place finalement ces questions ont-elles, Cosimo La Cirignola?
En fait, dans les accords de Barcelone, l'agriculture n'existait pas. Parce qu'à l'époque, quand en 1995, l'agriculture jouait un rôle de compétition entre les nord et les sud. Je vous rappelle les produits sensibles, l'huile extra vierge d'olive et tous les autres produits qui faisaient que les Européens ne voulaient pas des accords avec la partie sud de la Méditerranée. Tandis que maintenant, paradoxalement, 20 ans après, bon, l'Europe a changé, a évolué et n'est pas à 12, 15, maintenant elle a 28, 29, elle va arriver à 30, 31. Bientôt, et le scénario a changé. L'agriculture devient, et la sécurité alimentaire et nutritionnelle devient centrale dans une nouvelle dimension. Donc il faut repenser les accords de Barcelone parce que les résultats n'est pas positif. Bon, 2010, on aurait dû créer une zone de paix et prospérité partagée. Ces zones de paix et prospérité partagée avaient comme objectif plutôt les commerces, la technologie, etc. Et l'agriculture n'existait pas. Tandis que maintenant, la préoccupation majeure, c'est justement répartir l'agriculture du milieu rural, parce que le milieu rural représente un atout important dans cette dimension euro-méditerranéenne.
Mohamed Sadiki, un commentaire sur ce que vient de dire Cosimo La Cirignola, repenser les accords de Barcelone.
Je voudrais juste ajouter à cela toute la dynamique de coopération dans la région méditerranéenne et puis maintenant dans le nord-sud vers l'Afrique. C'est toute la question de la modernisation de l'agriculture à travers la coopération technique et technologique et scientifique et les échanges en termes de savoir, où des organismes très importants comme le CIAM, le Centre international des hautes études méditerranéennes, jouent un rôle extrêmement important avec d'autres acteurs. Et cette modernisation de l'agriculture est un focus extrêmement important pour pouvoir rendre le secteur attractif et pour attirer les jeunes vers justement l'insertion dans ce secteur.
Cosimo La Cirignola.
Oui, en fait, les jeunes. Les paradoxes que nous vivons, c'est une série de fractures. Une fracture ville-campagne, et là-dedans, une fracture jeune-pas-jeune. Normalement, il y a des jeunes qui font des études et vont vers la ville, vont vers d'autres professions. Combien de jeunes aujourd'hui vont vers l'agriculture? Là, c'est un problème énorme, parce que si on pense au futur, on doit penser nécessairement aux jeunes et à l'insertion des jeunes dans les milieux ruraux et agricoles. Je dis rural parce que l'agriculture représente un des aspects, mais pas seulement. Donc il y a cette double fracture, une fracture des générations. Un exemple, la moyenne d'âge en Tunisie d'un agriculteur, c'est 58 ans. Donc comment on peut penser au futur de l'agriculture maghrébine, agriculture européenne, parce qu'en Italie ça se passe la même chose, sans les jeunes en agriculture. Donc c'est un gros problème. Les villes, on ne peut pas les nourrir sans les campagnes. Et les campagnes, elles doivent être peuplées. On ne peut pas arriver à des campagnes désertifiées. Donc l'insertion des jeunes à travers des programmes, et ça, ça a été l'objet d'une conférence durant la présidence italienne, de la conférence euro-méditerranéenne de Palerme, durant la présidence italienne. Parce que l'objectif, c'était donner aux jeunes des instruments pour pouvoir entrer en agriculture avec intelligence. Et donc, les grands débats du futur sera aussi comment faire en sorte que l'agriculture, non seulement puisse représenter un atout pour des jeunes. Donc, il faut la rendre plus smart, plus intelligente. Il faut, paradoxalement, amener les services que dans la ville existent, qui attirent les jeunes vers la campagne.
En tout cas, ce que je sens de ce que vous dites les uns les autres, c'est cette sorte de redécouverte de l'agriculture et de son importance. Ça peut paraître banal, mais je crois que c'est vraiment Sébastien Abyss.
Moi, je voudrais simplement dire, on est dans le cadre du salon, il y a de la musique derrière nous, le salon de l'agriculture à Paris, c'est un moment extrêmement populaire, un peu festif.
Et très vivant.
Mais on est en train de parler de sujets extrêmement graves, des sujets extrêmement graves qui vont être au cœur de l'agenda 2015. En 2015, il y a quand même trois grands rendez-vous internationaux qui vont mettre les questions agricoles au centre. Vous avez la conférence climat en décembre prochain à Paris, qui dit que ça va être la réunion des solutions pour les négociations climatiques. Vous avez l'Expo universelle de Milan en 2015, dont le sujet n'est pas la haute couture ou les tenues de luxe pour les femmes, mais la sécurité alimentaire, choix des autorités italiennes et de la ville de Milan. Et vous avez la mise en place de l'agenda post-2015, ce qui va cadrer 15 ans de coopération internationale. C'est extrêmement important parce que, à travers ces manifestations, vous avez le message que l'agriculture, c'est un secteur d'avenir. Et que donc c'est un métier d'avenir par rapport à la problématique des jeunes. Et rappeler sans cesse que c'est un métier d'avenir parce que la finalité première de l'agriculture, c'est de nourrir les hommes. Que jusqu'à preuve du contraire, seule l'agriculture permet de nourrir les hommes. Et que nous avons besoin de toutes les agricultures du monde pour nourrir les hommes. Dans tous les continents et sous toutes les formes.
Voilà, alors c'est la fanfare qui est passée tout à l'heure et qui repasse dans l'autre sens. Jean-Christophe Debarre.
Puisque l'on parle d'agenda 2015, je crois qu'il faut ajouter à la liste que Sébastien vient de décrire le fait qu'il y a une conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce en fin d'année 2015. Et je disais tout à l'heure qu'on recommence à parler des négociations agricoles qui étaient enlisées depuis plus de 10 ans. Or, on sait bien que ces dernières années, dès qu'on commençait à rentrer dans le vif du sujet, ça devenait difficile parce que, voilà, faut-il ouvrir les frontières? Combien exactement? À qui? Eh bien, ces questions-là qu'on avait cru peut-être un petit peu oubliées depuis plusieurs années sont en train de remonter au sommet, si je puis dire, de l'actualité.
Alors, c'est peut-être vers vous que je me tourne, Jean-Christophe Debarre. Quel rôle finalement pour l'Europe agricole dans l'amélioration de la sécurité alimentaire mondiale?
La sécurité alimentaire mondiale a besoin d'une Europe agricole forte. Entendons-nous, l'Europe doit être forte également sur le plan agricole, pas uniquement, mais également sur le plan agricole. Il est clair que ce sont d'abord les pays qui doivent produire le plus possible pour s'alimenter. Et il faut regarder les choses. On a parlé tout à l'heure de l'importance des échanges. On sait bien que, compte tenu notamment du défi démographique, beaucoup de pays, beaucoup de régions ne seront pas en mesure de produire autant que ce que leur population demande. Donc, on va avoir besoin des échanges de plus en plus. Et quand on regarde les échanges agricoles, on l'a dit en début d'émission, par définition, à cause des aléas climatiques et d'autres facteurs, ils sont très fluctuants. Prenons le cas des céréales. L'Europe produit 15% de la production céréalière mondiale. Dans un environnement mondial où effectivement le changement climatique va de plus en plus produire ses effets avec des aléas climatiques très forts, il est très important que l'Europe également puisse avoir une production suffisante pour pouvoir compléter la production agricole de beaucoup de ces pays qui donc ne seront pas en mesure de répondre à leurs besoins.
Alors je vous pose la même question, Mohamed Sadiki, quel rôle pour le Maroc dans l'amélioration de la sécurité alimentaire en Afrique ?
Et les meilleures pratiques, les échanges, l'adaptation au changement climatique. Mais je dois juste insister sur le fait que les changements climatiques impliquent deux choses. D'abord, l'adaptation en termes donc de technique et d'approche pour maintenir notre production. Mais de l'autre côté, il y a l'atténuation des effets des changements climatiques qui est un problème régional et surtout un problème mondial autour desquels doit y avoir une solidarité internationale.
Cosimo La Cirignola.
Bon, produire c'est important, mais aussi il faut aussi éviter de gaspiller. Donc la lutte contre le gaspillage devient une arme aussi, parce que le gaspillage intéresse tout, à la production, à la logistique, à la transformation, au commerce, et à la fin, pour les pays du Nord, c'est notre comportement vis-à-vis du frigo. Mais disons, il y a des comportements individuels et des comportements collectifs, des comportements sociétaires, des pays, des modèles, des approches aux coopérations. Il y a une autre forme, on dit toujours on doit éviter de gaspiller l'eau, fondamentale, parce que bon, en Méditerranée, 85% de la ressource est utilisée en agriculture, donc grande bataille à gagner. Mais il y a une troisième forme de gaspillage qui nous amène aux discussions précédentes, c'est le gaspillage de la connaissance. La connaissance au monde existe, elle est là. Nos enfants la trouvent dans Internet, etc. Alors il faut l'adapter aux besoins. Et donc, avec l'expertise, la sagesse, etc. Et cette forme de gaspillage qu'on ne peut pas se permettre. Et ça nous rapporte aux gènes. Il faut investir sur les gènes si on n'a pas du futur, parce que sinon, on gaspillera notre futur. C'est un impératif. Donc, gaspillage de la connaissance, ça devient aussi la possibilité pour des gènes, des populations, de retrouver un équilibre avec la nature aussi face au changement climatique.
Sébastien Abyss.
Oui, moi je voudrais juste reprendre la casquette géopolitique et la casquette France pour faire une conclusion par rapport à l'actualité chaude et rebondir sur ce que disait Jean-Christophe Debarre sur la contribution de l'Europe aux équilibres alimentaires mondiaux. La France, son agriculture est extrêmement performante à l'export vis-à-vis du bassin méditerranéen. Le blé, par exemple, est davantage vendu au Maghreb que dans le reste de l'Europe. Donc le pétrole doré de la France, ce produit vital qu'est le blé, aujourd'hui trouve ses débouchés premiers au Maghreb, en Égypte. À ce sujet, il est quand même étonnant qu'il y ait moins de tabous, a priori, de la part des politiques et des médias à vendre l'avion Rafale à l'Égypte et à en parler pendant 3-4 jours dans les médias, alors que parallèlement, et peut-être silencieusement, la France exporte du blé produit vital à l'Égypte qui en a besoin, et ça, personne n'en parle. Donc l'avion Rafale, tout le monde en parle, étonnamment, comme s'il n'y avait pas de tabou là-dessus, et le blé vendu silencieusement pour nourrir les populations, tout le monde se tait. Et c'est ce renversement de regard qu'il va falloir opérer dans les années à venir.
C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Mohamed Sadiki, secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime du Royaume du Maroc, Cosimo La Cirignola, secrétaire général du SIAM, le Centre international des hautes études agronomiques, Jean-Christophe Debord, directeur de la Fondation FARM, la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, et Sébastien Abyss, administrateur au SIAM et chercheur associé à l'IRIS. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat. Émission qui était enregistrée donc au Salon de l'Agriculture sur le stand de l'AFD, l'Agence Française de Développement. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand, Médard Chaboulaoui et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée à pouvoir et terrorisme. À demain.